Zonzon Zef, la radio du coin.
1, 2, 1, 2, bonjour à tous.
C'est toi qui parle.
Arrêtez de me regarder là, je bloque.
Rigolez pas, me regardez pas parce que sinon je vais pas.
Zonzon Zef, la radio du coin.
Un sens pour les câbles des fois.
Ça c'est fort.
Oui, bonsoir.
Ouais, non, mais attends, je vais prendre le micro comme ça.
Non, bah oui, parce que on va peut-être le refaire sans écho, mais c'est sûr, ça va faire trop d'écho.
Bonjour à tous, bienvenue sur Zonzon Zef, émission enregistrée à la maison d'arrêt de Blois en partenariat avec Studio Zef 91.1. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast sur studiozef.fr. Nous sommes en présence d'une nouvelle équipe, David.
Bonjour Magie.
Bonjour. JP.
Bonjour à tous.
Comment ça va aujourd'hui ?
Très bien, très bien.
Ouais, ça va plutôt bien. Et toi, ça va Magie ?
Moi, ça va.
Ah, pas facile d'animer l'émission.
Non, c'est pas évident, je l'avoue.
Bon, comme vous le savez, chers auditeurs, à chaque fois, en fait, qui dit nouvelle équipe, dit donc nouvelle émission. C'est pour ça que nous avons Majid et David qui sont nouveaux sur l'émission. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît.
Merci. David, présente-toi.
Oui, dis-moi. Bon, bah, je m'appelle David, je suis détenu à la maison d'arrêt de Blois.
Est-ce que c'est la première fois que tu fais une émission radio ?
Oui, c'est la première, toute première fois. Ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le thème du coup de l'émission ?
Le thème de l'émission, c'est la mission locale.
Majid, toi, c'est la première fois que tu fais une émission ?
Oui.
Hop.
JP,
oui.
Peux-tu te présenter ?
Bonjour, bah, du coup, moi c'est JP, je suis là depuis le début des émissions, on a déjà enregistré quelques-unes. Pour vous préciser un petit peu, donc, comment ça se passe, on a un appareil portatif avec donc, trois micros, qui sont branchés dessus, et on se trouve à la bibliothèque pour enregistrer l'émission.
Je vais vous expliquer le déroulement de l'émission. David ?
Dans un premier temps, donc, il y aura un débat sur le thème de la mission locale.
Ensuite, on fera une interview avec Madame Gourgeot de la mission locale.
Est-ce qu'il y aura de la musique, les gars ?
Deux pauses musicales.
Et du coup, il y aura un micro-trottoir. Donc, pour expliquer le principe du micro-trottoir pour nos nouveaux auditeurs, pour ceux qui connaissent déjà, vous connaissez le principe. En gros, notre intervenante qui travaille donc à Studio Zef pose une question à une des personnes, soit dans la rue, soit à son studio, concernant le thème du jour. Et cette personne, en fait, en gros, nous pose une question à nous et nous, on y répond. Alors, pour les auditeurs qui sont habitués à écouter notre émission, on laisse la place au directeur de l'établissement qui va vous expliquer un petit peu le projet et le thème.
Donc j'ai souhaité consacrer une émission spéciale à la mission locale, qui est vraiment un partenaire du milieu blaisois très important pour nous au sein de la maison d'arrêt. Donc il y a une intervenante qui intervient un jour par semaine, qui assure une permanence à la maison d'arrêt. Pour synthétiser, le SPIP identifie les jeunes de moins de 26 ans et sont orientés systématiquement vers la mission locale. Donc il y a un repérage dans le circuit arrivant et après un premier entretien est mis en place pour aider nos jeunes publics âgés de moins de 26 ans. Voilà. Donc c'est un dispositif pour nous essentiel, très important, et on en échange bien évidemment avec le SPIP pour mettre en place ce dispositif auprès de nos jeunes publics.
Donc on va parler de la mission locale. Je demande à David ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en sait ?
Moi, pour moi, j'ai jamais connu la mission locale. Voilà.
Mais David, est-ce que tu sais ce que c'est ? La mission locale, d'après vous, elle apporte quoi, en tout cas, à la maison d'arrêt ?
Bonne question.
La mission locale, je pense qu'elle apporte une solution aux jeunes de trouver un travail, une formation, des aides, quoi.
Est-ce que pour vous, il y a un âge... Exactement, à s'en sortir. Est-ce que pour vous, il y a un âge limite ?
Je pense que c'est 26 ans, je crois.
Oui, il me semble.
26 ans ? Bah on posera la question à Madame Gourgeot quand on l'interviewera. Donc, en fait, vous, dehors même, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une aide à l'emploi, enfin pour trouver de l'emploi, par exemple, maintenant, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de ça à l'extérieur ?
Moi, non.
Toi, non ?
Non.
Moi non plus.
On va essayer de revenir un peu sur votre jeunesse. Pour certains, c'est peut-être un peu plus lointain que d'autres.
Je confirme.
J'ai visé personne. Oui, quand vous étiez petit, attention, je parle, on va dire ado, au lycée, vous savez, il y a des conseillers d'orientation, même au collège, je crois. Est-ce que vous aviez déjà une idée du métier que vous vouliez faire plus tard ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, justement, qui vous oriente sur un métier ?
Moi, non, j'ai jamais eu d'orientation. J'ai toujours travaillé...
Toujours ? À 15 ans, tu travaillais déjà ? T'as commencé à travailler à quel âge ?
J'ai commencé à travailler à 14 ans dans les champs.
Dans les champs. Et toi, David, t'as commencé à quel âge ?
J'ai travaillé à 15 ans dans les champs au début, ouais.
D'accord. Vous étiez dans les mêmes champs ?
Non, peut-être pas. Ça se trouve. Hein.
Moi, j'ai fait des fraises.
Ouais, pareil.
D'accord.
J'ai fait des échalotes.
David, je vais commencer par toi. T'as grandi plutôt dans un quartier, en ville, dans un village,
en
campagne ?
Un petit village, en campagne.
Un petit village. Et pour t'orienter vers ton métier, même une passion pour un sport, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un,
non,
un animateur ou...
Non.
Non, personne.
Non, non.
D'accord. Il y avait personne dans ton village ?
C'était
tout seul ?
J'étais seul au monde.
Il n'y avait pas de marche ?
Non, même pas.
Magie, toi, dis-nous un petit peu, t'as grandi où ? En ville, en campagne ?
J'ai grandi dans un quartier.
Dans un quartier. Il y avait un animateur
populaire. Il y avait des animateurs qui nous avaient accompagnés pour faire la boxe.
Principalement culturel ou...
Non, les deux. Culturel, emploi. C'est d'ailleurs le premier emploi que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas ça. Je viens de me rappeler. J'avais ramassé les boules, les balles de...
Le tennis ?
Non. Non.
Golf ?
Golf. Avec un animateur du quartier.
D'accord. Et c'est lui qui t'a proposé ça
ou... Oui, c'est lui qui nous a proposé ça, parce qu'il fallait ramasser les balles partout, en dessous les feuillages, tout ça.
Ouais.
Et c'était payé, donc on l'a fait.
D'accord.
Donc, pour les jeunes, c'était bien.
Ok, et de ceux que tu te souviens dans tes camarades de l'époque, est-ce que tu sais s'il y en a qui ont été orientés professionnellement par cet animateur-là ou c'était principalement que sur des travails
étudiants ?
Non, c'est
que des travails saisonniers, là.
Saisonniers, oui.
Il y a pas mal. Il y a aussi ramasser les glands.
Ah ouais.
On ramassait les glands pour la pharmacie, qui était très intéressant pour cette époque. Non, c'est vrai que pour la jeunesse, c'était pas mal ramasser les glands. On ramassait les glands, puis c'était bien payé en plus.
Et toi, David, c'est qui t'a orienté pour travailler dans les champs ? C'est toi ?
Moi-même.
De toi-même ?
De moi-même, oui.
D'accord.
Ça, tu vois les patrons direct ?
Ouais.
Ok. Et là, du coup, les gars, moi, la question que j'ai, que je voulais vous poser, c'est... Par rapport à la sortie, quand vous allez sortir, est-ce que vous avez déjà un travail ? Est-ce que vous avez des projets de formation ou autre ? Est-ce que du coup, parce que c'est la personne de la mission locale, donc nous on a plus de 26 ans tous, hein, mais elle est là je pense pour orienter les jeunes aussi à la sortie, pour leur trouver peut-être des formations. Et pour nous, pour des personnes plus vieilles que 26 ans, donc comme j'ai expliqué, il y a le BIGE, qui peut nous donner des informations sur des formations ou autres. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire à la sortie ?
Moi, personnellement, quand je sors, je reste maximum 6 mois en France. Et après, je rentre au Maroc, définitivement. Parce que maintenant, mes enfants sont grands. J'ai divorcé, donc j'ai plus d'attache. Et puis, mon projet là-bas, c'est de m'occuper de la succession de mon père.
D'accord. Et toi, David ?
Moi, c'est pareil, c'est retrouver mon travail et ma fille aussi.
D'accord, donc ton travail, tu reprends le même travail, ouais, pas d'envie de changement.
Non, pas pour l'instant.
Maçon ?
Non, je sais pas encore, faut que je m'accole au mur.
Ok, et bah, du coup.
Et toi ?
Ah, merci, Magie,
oui, c'est vrai,
j'allais dire. En gros, pour vous parler un petit peu, quand j'étais au lycée, j'ai vu un conseiller d'orientation. Alors forcément, ce qu'on me proposait par rapport aux études que j'ai faites me convenait pas forcément. Après, je pense que j'ai testé plusieurs choses comme vous. J'ai pas travaillé dans les champs en premier, mais au début, je lavais les pare-brises comme premier job sur l'autoroute. Après, j'ai des projets aussi. Moi, j'ai déjà fait appel au BIGE ici, justement, par rapport aux différents projets que j'avais pour ma sortie, puisque j'étais en reconversion professionnelle avant de rentrer en détention. Mais je me dis pourquoi pas changer totalement de domaine, de secteur dans lequel je travaillais. Donc voilà. J'avais posé la question à Madame Gourgeot, mais je suis trop vieux, donc du coup, j'ai plus de 26 ans, donc du coup, je me suis réorienté vers le BIGE. J'ai déjà obtenu quelques informations grâce à ces personnes-là, ouais, tout à fait.
Et sur quel secteur tu travailles ?
Alors avant, je travaillais dans la vente. Et là, je pense que je vais me réorienter vers du travail principalement à l'extérieur. J'en dis pas plus, mais on verra ça. En fait, à force d'être enfermé,
on réfléchit.
J'ai envie de travailler plus à l'extérieur. Ça, d'accord.
Moi, je te comprends.
Bah oui, c'est pour ça, on a cet avantage-là en fait en détention. Après, je ne sais pas si vous étiez informé que vous pouviez avoir des rendez-vous avec le bijou ou pas. Ça ne fait pas forcément partie de vos projets. D'après vous, qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes, justement, aux jeunes ici, parce qu'on a une population carcérale qui est quand même très très large. Hein. Ça va de 18 à plus de 70 ans, je crois. Donc, on va parler de la catégorie jeune. Qu'est-ce que, d'après vous, ça leur apporte, la mission locale ?
Découvrir les métiers. Pour commencer et
avoir quelque chose en poche, quoi.
Comment ?
Avoir quelque chose en moins, quoi.
Ouais, mais enfin, on voit un peu comment sont les jeunes d'aujourd'hui. Comment, d'après toi ou d'après vous, on peut motiver les jeunes pour essayer justement encore pire quand t'es incarcéré, parce que tu peux te remettre en question, tu peux te dire mince, je suis en détention, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail facilement ? Enfin, la mission locale. Quelle est sa force pour vous ? Comment elle peut arriver à faire en sorte que les jeunes ils aient envie de s'en sortir ?
La mission locale, ça aide les gens à passer leur permis, à acheter un véhicule. Je sais que ça aide bien les jeunes.
Ah, donc pour toi, il n'y a pas que le pas côté que formation et emploi, il y aurait d'autres choses.
Il y a le moyen de locomotion.
Qu'est-ce qui est le plus important pour n'importe quel âge quand tu sors de détention ? C'est d'avoir de
un logement et un travail.
Un logement et un travail, mais pour ça, être accompagné.
Voilà, oui.
Ça, c'est toujours utile. Parce que si on te lâche comme ça, en pleine nature, en disant écoute, bon chance, c'est peut-être plus compliqué. Donc je me pose la question, moi, est-ce que du coup, la mission locale, l'intervenante qui est ici, accompagne les gens dehors ou pas ? Est-ce qu'elle les suit ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais ? Par exemple, dans le service du SPIP, donc on avait déjà fait une émission sur le service du SPIP pour la réinsertion. Les personnes qu'on voit à l'intérieur de la détention ne sont pas les mêmes qu'on voit dehors.
Oui.
Ce qui n'est pas forcément simple. Quand tu as commencé à travailler, à faire un projet avec quelqu'un, si tu dois recommencer de zéro.
Ça ne doit pas être facile quand même de changer.
Non, mais je pense qu'avoir un accompagnement, c'est un minimum. Comme je t'ai dit, vous savez par exemple ce que vous allez faire quand vous allez sortir. Mais si on s'imagine, si on essaie de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas de projet et qui ne sait pas quoi faire, s'il n'y a pas d'accompagnement, je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités
qu'ils reviennent.
Exactement.
Oui, mais ce n'est pas forcément. Ça dépend combien il est entouré familialement. Oui,
en fait, il faut être accompagné. En gros, c'est ça. Si tu n'as pas d'accompagnement, je ne te parle pas d'un accompagnement forcément professionnel, mais il faut quand même avoir quelqu'un qui t'aide,
qui
en tout cas.
Soutien, quoi.
Voilà.
Oui.
Un soutien.
Alors, nous allons faire une pause avec Tigenja pour coller Réveillez-vous.
Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous.
Réveillez-vous,
réveillez-vous.
Trop d'erreurs, trop longtemps. Trop de pleurs sur les 5 continents. La justice mérite un combat, la liberté mérite un combat. Mais où sont passés les soldats?
Mais où sont passés les soldats?
Réveillez-vous,
avant qu'il ne soit trop tard.
Réveillez-vous,
je rêve d'un nouveau départ.
Réveillez-vous,
réveillez-vous.
Réveillez-vous,
hey, réveillez-vous. Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard.
Réveillez-vous,
je rêve d'un nouveau départ.
Réveillez-vous,
réveillez-vous.
Réveillez-vous,
réveillez-vous. J'ai vu la foule dans les rues de nos villes. Les slogans, les manifs, qu'en reste-t-il, oh, de ceux qui hurlent? Dites-moi, combien prennent le chemin des urnes? Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard.
Réveillez-vous,
je rêve d'un nouveau départ.
Réveillez-vous,
réveillez-vous.
Réveillez-vous,
réveillez-vous. Hey, réveillez-vous.
Certains décident, d'autres payent. Les escrocs président
et c'est le peuple qui saigne. La justice mérite un combat, la liberté mérite un combat. Mais où sont passés les soldats?
Mais où sont passés les soldats? Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous,
réveillez-vous,
hey, réveillez-vous.
Non, voyez-vous, lit. On vous demande pas de réveiller les hommes. On vous demande simplement de réveiller les cœurs et les consciences.
Franchement, on se laisse faire, soumis aux actionnaires. Accepte de se taire, la révolte en jachère, les frustrations se digèrent. Les idéaux, ça se perd, pire, ça se vend aux enchères. Consommation, télévision comme somnifère. L'imperfection semble satisfaire. Pourquoi combattre pour le paradis tant qu'on ne vit pas l'enfer? Tous dans le même bateau, chacun sa galère. Oh, je deviens amer. J'en grandir ma colère, oh. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous,
réveillez-vous,
hey,
réveillez-vous.
On est toujours sur Zonzon Zef. Nous accueillons Madame Courgeot de la mission locale.
Bonjour.
Bonjour. Et Jo qui nous a rejoint sur l'activité.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Tu connais la mission locale?
Oui, j'ai connu oui, quand j'étais plus jeune.
Tu as eu affaire à eux?
Oui, oui, oui. J'ai eu affaire à la mission locale.
Ok. Nous allons poser la question à Madame Courgeot. Depuis quand existe la mission locale?
Alors, les missions locales ont été fondées par M. Schwartz en 1982.
Bonjour, Mme Gourgeot. Depuis quand intervenez-vous
à la maison d'arrêt?
Alors, j'interviens maintenant depuis fin 2022. J'ai pris le relais de Mme Gagneux qui intervenait en tant que conseillère en mission locale aussi depuis plus de 9 ans à la maison d'arrêt de Blois. Mais moi, depuis 2022.
Et pourquoi le choix de la maison d'arrêt?
Alors, j'ai été, je vais vous parler un peu de mon parcours du coup, j'ai été embauchée à la mission locale du coup sur un dispositif d'accompagnement renforcé qu'on appelait la garantie jeune, donc là où j'accompagnais les jeunes et j'animais un peu des ateliers, etc. Et j'ai fait la rencontre de jeunes sous main de justice qui bénéficiaient d'un aménagement de peine. Donc j'ai pu les accompagner et c'est là que j'ai commencé à connaître le monde de la justice et le monde carcéral. Et après, c'est une opportunité. Madame Gagneux a évolué dans ses fonctions et moi, j'ai souhaité me positionner sur le poste. C'est une vraie vocation pour moi d'accompagner les jeunes et plus particulièrement les jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés et cumuler les freins. Donc, voilà.
Combien de personnes suivez-vous?
Alors moi personnellement, je suis à peu près entre 60 et 70 jeunes, ce qu'on appelle en file active. Donc ça veut dire que c'est pas forcément les mêmes jeunes tous les mois, mais voilà, c'est à peu près cette fourchette-là. Donc j'accompagne moins de jeunes que certains de mes collègues de la mission locale parce que c'est une mission plus spécifique, il y a besoin d'accompagnement plus renforcé. Les jeunes ont besoin qu'on soit disponible, assez disponible pour eux sur cette référence. Donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, à la mission locale, on accueille entre 2500 et 2800 jeunes à l'année.
Quand même.
Ouais.
Et c'est à partir de quel âge qu'on peut on a le droit de venir justement solliciter
À partir de 16 ans.
16 ans, ok, ouais. Merci.
Et jusqu'à 26 ans, enfin la veille de vos 26 ans, ou alors s'il y a une reconnaissance travailleur handicapé, on peut aller jusqu'à 29 ans.
Oui, parce que je sais qu'il y a des formations adultes qui sont
oui.
Qui vont un peu plus loin que 25 ans.
Ouais.
Merci.
Qu'apportez-vous aux jeunes ?
Comment vous abordez les choses avec eux, en fait, c'est ça la question.
Alors, ma mission principale, c'est d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer un accompagnement global. On va du coup accompagner le jeune sur la recherche de formation, d'emploi, sur l'élaboration d'un projet professionnel, son orientation professionnelle. Mais on va aussi prendre en compte toute la sphère sociale, c'est-à-dire le logement, la santé, la mobilité, tout ce qui est loisirs aussi, parce que c'est dans l'ADN des missions locales et c'est dans notre ADN de proposer un accompagnement global, parce qu'on pense qu'un jeune qui va trouver un travail, si il n'a pas de logement, ça va être plus compliqué pour lui de pérenniser son emploi. Donc on va essayer de travailler avec nos partenaires, hein. Pour que le jeune soit dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions.
Et on voudrait savoir aussi, quel est le pourcentage de jeunes en fait, qui s'en sortent ? La réussite, le pourcentage de réussite ?
Oula.
Si on peut dire réussite, on peut dire.
Là, j'avoue que je ne pourrais pas vous donner un pourcentage.
Même par rapport à l'embauche et tout, vous n'avez pas de chiffres ?
Là, comme ça.
Je vais vous prendre court, hein, désolé.
Non, là, j'avoue que comme ça, j'ai pas de pourcentage. Et alors, c'est une demande de l'État aussi qu'on ait ce qu'on appelle des sorties positives, donc des sorties vers l'embauche, etc. Surtout dernièrement avec la loi de plein emploi. Donc, c'est quelque chose qui va nous être demandé. Mais c'est vrai que là, en termes de chiffres, je peux pas vous en donner. Si déjà un jeune s'en sort, on est content. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir ? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un jeune qu'on a accompagné de ses 24 à ses 26 ans et qui a un emploi. Et au final, la situation ne peut ne pas perdurer dans le temps après. On n'a pas forcément de suivi après. Alors après, on peut avoir des entrées en formation, des chiffres sur des entrées en formation, des chiffres sur des entrées en emploi. Là, je ne pourrais pas vous les... Si j'avais eu la question avant, peut-être que j'aurais pu vous ramener des chiffres. On peut le retrouver dans le rapport d'activité de la mission locale de Blois. Mais voilà, après, qu'est-ce que... Pour vous, ça veut dire quoi, quelqu'un qui s'en sort, en fait ? C'est ça aussi.
Par rapport au nombre de jeunes qui viennent vous voir, est-ce que c'est plus 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5 qui va vers une embauche ou qui va jusqu'au bout de son projet en fait, de réinsertion ?
Ouais, ça va être très variable. Après, là, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Je peux vous dire que les jeunes qu'on accompagne maintenant par rapport à il y a quelques années ont plutôt un profil éloigné de l'emploi avec des problématiques sociales fortes et que on va travailler beaucoup ça en ce moment. On essaye de mettre des choses en place, des actions, des projets. On redéfinit notre façon de travailler aussi parce que l'emploi n'est plus... si facile d'accès que ça pour les jeunes qu'on accompagne actuellement. C'est-à-dire que voilà, on va devoir lever des freins en termes de confiance en soi, en termes de voilà, on a des jeunes qui ont subi du harcèlement scolaire, qu'on en termes de santé mentale, des choses comme ça. Le Covid a beaucoup impacté les jeunes. Voilà, le climat actuel aussi. Hein. Les jeunes ont du mal à se projeter. Et c'est vrai que c'est plutôt des profils comme ça qu'on accompagne et on fait beaucoup de travail d'insertion sociale maintenant.
Ouais, c'est des jeunes qui sont en général un peu qui ont quitté le parcours scolaire et qui ont perdu leur objectif de
oui,
vie quoi.
Souvent. Alors nous on accueille les jeunes déscolarisés déjà de base. Il ne faut pas qu'ils soient à l'école ou alors Bon, si on fait quand même quelques actions justement pour prévenir le décrochage scolaire, c'est-à-dire qu'on intervient dans des collèges et des lycées pour justement quand il y a des jeunes qui sont un peu en souffrance à l'école, qui n'arrivent pas à définir un projet, qui sont, j'aime pas trop le terme, mais en échec scolaire, on intervient, on a des conseillers de la mission locale qui interviennent pour essayer de faire le relais et pour pas qu'on perde le jeune, qu'il soit pas sans solution si l'école s'arrête. Voilà. Donc on essaye de prévenir tout ça.
Moi j'ai une question concernant les personnes que vous suivez à l'intérieur de la maison d'arrêt. Est-ce que d'après vous, les jeunes, ils ont autant de chances que des personnes de l'extérieur ? Autant de chances de s'en sortir dans les termes qu'on a dit il y a quelques minutes.
Alors, moi, ma pensée personnelle, oui. Alors, autant de chances. Après, déjà, il faut que le jeune ait cette motivation personnelle, déjà de base. Hein. Alors, des fois, il faut aller un peu creuser pour qu'il trouve cette motivation personnelle. Ensuite, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes, mais aussi de sensibiliser les organismes de formation, de sensibiliser les employeurs pour faire entendre que les jeunes sous-mandatés n'ont pas moins de compétences que les autres jeunes, que c'est des personnes normales et qui peuvent très bien s'insérer.
Oui, mais il y a des préjugés souvent. Enfin, les employeurs, par
bien
exemple.
Bien sûr, c'est très compliqué. On va pas avoir de langue de bois. Bien sûr qu'il y a des préjugés. Bien sûr que c'est notre rôle aussi de se battre au quotidien, que ce soit les missions locales ou les personnes qui interviennent généralement dans l'insertion des personnes sous main de justice. On est là aussi pour sensibiliser justement les employeurs, les organismes de formation qui pourraient les accueillir. On est là aussi pour essayer de pérenniser, parce que souvent, on va réussir à convaincre les employeurs, les organismes de formation, mais après, il faut qu'il y ait un suivi dans l'emploi ou dans la formation pour que, généralement, tout se passe bien, etc. Donc, il y a ça aussi... C'est le travail qu'on essaie de faire autour de nous. Et comme généralement les personnes qui interviennent sont assez convaincues, on met tout notre cœur pour vraiment sensibiliser les employeurs et les organismes de formation.
Est-ce que les jeunes ont droit aux allocations en détention ?
Alors non. On peut... oui, non. C'est des petites subtilités. Ils peuvent pas rentrer en... On a un gros dispositif national en mission locale qui s'appelle le contrat engagement jeune. Avant, ça s'appelait la garantie jeune. Maintenant, ça s'appelle contrat engagement jeune, où le jeune peut bénéficier d'une allocation allant jusqu'à 550 euros, sous réserve qu'il puisse faire des démarches actives pour son insertion socio-professionnelle. Le fait qu'il soit incarcéré ne lui permet pas de faire ces démarches-là, donc il ne peut pas entrer dans ce dispositif-là. On peut par contre... Alors, on pouvait, parce que là, dernièrement, j'ai eu le cas, mais on pouvait par contre accompagner dans un dispositif qu'on appelle le PACEA, Parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, où là, on pouvait débloquer des allocations si, par exemple, le jeune ne peut pas cantiner, ou alors si, par exemple, on a un projet d'aménagement de peine et que le jeune n'a pas du tout d'argent pour, payer le train, etc. Donc, ou payer le repas quand il veut aller sur une permission de sortie pour rencontrer un employeur ou un organisme de formation, on pouvait débloquer des allocations. Après, il y a toutes les subtilités judiciaires, enfin administratives concrètement. Donc des fois, ça peut bloquer. Normalement, on pourrait. Après, c'est tout ce qui est administratif qui peut bloquer. Mais par contre, non, ils ne peuvent pas bénéficier d'un contrat engagement jeune et d'une allocation de ce dispositif. En semi-liberté, oui. Et en fait, il faut que la personne, un peu comme France Travail, il faut que la personne soit disponible pour faire des démarches vers l'emploi. En fait, c'est ça vraiment le cœur de la question, quoi.
Combien d'employés dehors pour combien de jeunes suivis?
Alors, si on est en termes d'employés, alors ça peut différer de mission locale. Moi, je parle vraiment à la mission locale de Blois. Alors, si on parle en termes d'employés, on est environ 43 équivalents temps plein. Donc, ça, voilà. Mais en tant que conseiller, parce qu'après, on a toutes les fonctions support, les assistantes administratives, voilà, tout ce qui fait tourner une mission locale. On ne pourrait pas les charger de projets, des choses comme ça. On ne pourrait pas travailler sans eux, très clairement. Donc ça, on est environ 43 équivalents temps plein. Et en tant que conseiller, on doit être 23. Et du coup, on accompagne, comme je disais tout à l'heure, entre 2500 et 2800 jeunes.
Et moi, j'avais une autre question. Les missions locales, du coup, c'est y en a pas dans toutes les villes, je pense. Dans les petites villes, il n'y en a pas. C'est des villes d'à partir de combien d'habitants ou...
Alors, il n'y a pas de minimum d'habitants pour...
Pour trouver une mission locale chez
pour
soi.
Pour trouver une mission locale. En fait, ce qui se passe, c'est... Je prends l'exemple de la mission locale de Blois, mais ça se fait dans beaucoup de villes maintenant. En fait, on a une mission locale centrale, donc nous, Blois, et notre but, c'est d'aller vers les jeunes. Donc, c'est-à-dire que les jeunes qui peuvent pas se déplacer, on va aller faire des permanences.
Il y a des antennes.
Il y a des antennes dans les mairies, dans les espaces jeunes qui existent déjà.
Ouais, parce que ça, c'est important. Il y a plein de jeunes qui savent pas que voilà, dans leur mairie, chez eux et tout, ils peuvent se faire aider auprès de la mission locale.
Ouais, on a souvent voilà, alors on essaie de couvrir un maximum du territoire. Donc nous, on intervient en Beauce et en Sologne. Mmh. Voilà, typiquement une ville comme Marchenoir. Qui n'est pas desservi.
Je ne connais pas.
Qui n'est pas... voilà, enfin, c'est dans...
Enfin, moi, je viens aussi d'un petit village, donc je comprends que...
C'est dans la Beauce, enfin, très clairement, ce n'est pas desservi par les transports, ou alors il y a...
Très peu.
Un quart, deux fois par semaine. Je grossis un peu le trait, mais honnêtement, c'est un peu ça. On fait des permanences.
Auprès des CCAS, des mairies, peut-être.
Ouais, on intervient. Alors, on essaie de trouver des salles à qui veut bien nous accueillir. Mais, enfin, c'est des conventions qui sont faites, oui, soit avec la mairie. Par exemple, sur le Contre en Sologne, on est accueilli par l'espace jeune de Contre, qui est géré par la communauté de communes. Et puis après, donc Contre, on est plutôt sur une grande ville aussi. Mais en fait, on va balayer vraiment. Par exemple, sur Saint-Laurent-Nouan, des choses comme ça, c'est pareil. En fait, c'est que c'est des villes qui ne sont pas accessibles en termes de mobilité. Et du coup, nous, on se déplace pour rencontrer les jeunes. Ouais.
Ok.
Si toutefois, les jeunes ne peuvent pas du tout se déplacer, est-ce que vous faites des rendez-vous par visio, par téléphone peut-être, mais par visio aussi?
Rendez-vous téléphonique, rendez-vous en visio. On s'y est mis beaucoup... avec le Covid, où on ne pouvait pas se voir. Alors, très honnêtement, rien de nouveau, l'entretien physique, honnêtement. Voilà, on voit qu'on a plus quand même de choses qui se débloquent quand on voit le jeune. Mais bien sûr qu'on s'adapte beaucoup à la situation du jeune. On essaye d'être flexible et de le mettre dans de bonnes conditions. Et on essaye de trouver des solutions pour qu'il puisse se déplacer, parce que la finalité, c'est qu'il ait une situation et qu'il puisse se déplacer pour aller à cette situation.
Et justement, en termes de fréquentation, par rapport à ce qu'on disait là, en mairie, etc. Mm-hmm. Les jeunes vous sollicitent beaucoup, c'est encore, y a du, enfin, je veux dire, ils viennent beaucoup vers vous, ils le savent, ou il y a encore un peu de... Bah, c'est pas su, quoi.
Sur l'année 2023, l'État a mis en place ce qu'on appelle un dispositif invisible. Et notre rôle, en fait, c'était d'aller vers les jeunes et de communiquer un minimum auprès des jeunes et auprès des proches des jeunes, enfin des mairies, des choses comme ça, pour se faire connaître. Et le but, c'était qu'il n'y ait aucun jeune qui soit dans la nature sans qu'il nous connaisse. Ouais. Voilà. Sachant que Un jeune qui va, par exemple, arrêter à l'école à 16 ans, on dit que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais concrètement, l'État lui demande d'avoir une obligation de formation jusqu'à ses 18 ans. Nous, on a ce rôle-là de s'assurer que le jeune est bien en situation entre ses 16 et ses 18 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un lien avec l'éducation nationale aussi qui va nous dire, attention, décrochage scolaire pour ce jeune-là, il faut voilà, faire quelque chose, vérifier. Donc on a des listes, etc. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller chercher qu'il n'y ait aucun jeune dans la nature qui n'ait pas de solution. Quoi. Mmh. Voilà, donc on fait un gros travail de présentiel déjà sur les petites villes, etc., de communication. On essaie de développer aussi notre communication sur les réseaux. Parce
ouais,
que,
parce
bah,
que j'allais y venir. En fait.
Concrètement, c'est ce qui touche les jeunes. Donc on essaie de faire des petites vidéos sur les réseaux. Principaux quoi, enfin voilà,
pour les accrocher
et puis pour se faire connaître et puis pour toucher un maximum de jeunes, ouais.
D'accord. Il y a peut-être une page ou un truc comme ça, non, où ils peuvent aller sur un certain site, enfin sur une.
Alors on a une page Instagram, Mission Locale du Blaisois. On a notre site internet Mission Locale de Blois. Voilà, après on communique autour de nos événements, etc. Donc ouais, sur Instagram Mission Locale du Blaisois, et puis c'est la principale, parce qu'après ça nous arrive de faire des petites vidéos sur d'autres réseaux, mais la principale c'est la page Instagram.
Ok, merci.
En détention, les jeunes ont-ils les mêmes problèmes que ceux de dehors ?
Alors, oui, ils ont des problèmes communs. Souvent, on a des jeunes... on a beaucoup de jeunes qui sont en rupture familiale, qui n'ont pas forcément de soutien familial ou qui sont assez isolés. On a des jeunes qui cumulent des freins, peut-être pas de mobilité, qui ont arrêté l'école très tôt, ou ce qu'il peut y avoir de plus quand ils sont en détention, il y a le côté quand même psychologique. Je pense que c'est pas facile pour eux non plus d'être enfermés et de se projeter. Il y a aussi... Je trouve une défiance envers les institutions, envers les autorités, ou même une défiance envers l'autre, qui est un peu plus exacerbée quand c'est un jeune qui est en détention, ou un jeune sous main de justice. Il y a une certaine défiance qui est un peu plus présente.
Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter sur un des jeunes que vous avez rencontrés, en parlant en détention principalement, mm-hmm. qui vous a le plus marqué, ou vraiment qui était, on va dire, au plus bas, aussi bien sur la confiance en soi, et qui a réussi à remonter le niveau et qui aujourd'hui est épanoui dans sa vie de dehors. Enfin, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a le plus marqué ?
Oui, il y a un jeune qui m'a beaucoup marqué, qui a eu un parcours de vie... qui a grandi en foyer, qui a pas forcément de repères familiaux, qui a pas forcément de soutien tout court, et qui a fait sa peine de prison et qui maintenant effectivement, on a élaboré un projet professionnel, on est parti sur une formation. Au final, dehors, il s'est rendu compte qu'il préférait l'emploi, et maintenant ça marche et ça tient. Mais oui, au départ, il y a toute cette confiance en soi à travailler. Les CEPIP sont là aussi pour travailler ça, et honnêtement, ça peut, c'est jamais plaisant d'être enfermé, hein, mais des fois, ce temps-là peut servir à travailler cette confiance et à travailler à lever des blocages en fait, qui pourront ensuite pérenniser la situation dehors et essayer de pas retomber dans des schémas qui parfois dépassent, hein, parce que quand on a été abandonné ou des choses comme ça, et pas forcément aidé tout au long de sa vie, c'est pas forcément facile de rebondir et de se dire de créer sa stabilité quand on a aucun repère, etc. Donc ça c'est des belles histoires quand ça fonctionne. Il y a une forme de résilience en fait chez ces personnes-là qui moi me touche et me fascine un petit peu parce que oui, enfin des personnes qui parlent pas forcément avec les mêmes clés que tout le monde et qui réussissent quand même à s'en sortir ou au moins à trouver une situation et à se stabiliser dans cette situation. Ouais.
Puis pour vous, c'est satisfaisant de voir qu'en fait, votre travail, ça porte aussi ses fruits, quoi.
Ouais.
Peut-être pas à 100%, bien sûr, sinon ça serait,
ouais,
ça serait utopique, mais...
Oui, bien sûr, c'est valorisant, faut pas se le cacher. Après, ce qui est important pour moi, c'est de voir que la personne essaie des choses... Tente des choses, ça veut pas dire... moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que maintenant, on fait pas des métiers pendant 20 ans, très honnêtement. Donc, essayer des choses, tenter des choses, essayer de créer une certaine stabilité.
Peut-être une relation de confiance même, non ? Parce que je pense que c'est des jeunes qui sont braqués contre les institutions depuis longtemps, et pour les ouvrir, les amener à s'ouvrir...
Ouais, complètement.
Socialement parlant, quoi. Ça doit pas être évident.
Bah complètement. Enfin, tout passe par la confiance. Concrètement, si le jeune n'a pas confiance en nous, il y a très peu de chances que alors peut-être qu'il s'en sortira tout seul et avec un autre réseau ou après nous.
Je pense qu'on est vachement
faut y aller. On n'est pas, c'est pas le jeune nous appartient pas. Moi, si par exemple un jeune se sent plus à l'aise avec un de mes collègues, ou si un jeune se sent plus à l'aise avec mon collègue de France Travail ou des choses comme ça, au contraire, parce que effectivement. Ce lien de confiance
va l'amener
à débloquer des choses, à tenter, et à savoir aussi que il a quelqu'un derrière lui qui le soutiendra, qui le lâche pas et qui essaye de l'aider du mieux qu'il peut. Alors après, comme je disais, faut vraiment que le jeune aussi soit motivé, parce qu'il ne faut pas se cacher, on a des gens qui ne veulent pas forcément être aidés. Mais pour ceux qui en ont besoin et qui en ont envie, on essaye de mettre tout en place et on essaye de mobiliser pas mal de choses pour que ça fonctionne, quoi. Et bien sûr que le lien de confiance est primordial. Alors, ça peut être à double tranchant aussi. C'est-à-dire que quand on a créé un lien de confiance avec un jeune, ça peut être difficile pour lui aussi de lâcher entre guillemets la main pour aller vers l'autonomie. Nous, notre rôle, c'est de rendre un jeune autonome. Mais c'est vrai que on crée ce lien de confiance qui est très important. Ensuite, on a cette petite période de transition, et c'est pour ça que on se remet sans cesse en question dans notre travail. On essaie de proposer des choses, d'être, je pense typiquement à des immersions accompagnées, c'est-à-dire d'emmener le jeune sur une entreprise et qui teste des choses, mais qu'on soit là avec lui pour
l'accompagner
la première heure, etc., et puis qu'il voit qu'on soit là aussi, qu'on échange avec la personne, avec l'entreprise ou avec on essaie de faire cette transition et on sent que nos jeunes ont de plus en plus besoin de ça, en fait, d'être accompagnés
C'est plus long qu'il y a une certaine qu'avant, que les jeunes d'avant.
Ouais.
C'est... Ils sont plus assistés.
Ouais, c'est pas...
Le processus dure plus longtemps, quoi, d'accompagnement.
Beaucoup de jeunes ont besoin de plus de temps. De plus de temps. On a aussi... on doit aussi travailler un peu plus qu'avant sur les codes en entreprise, sur les codes sociaux, comment on se présente. Alors, ça veut pas dire qu'on sensibilise pas aussi... nos entreprises partenaires sur le fait que la mentalité des jeunes ont évolué. Voilà, avant, la valeur travail était très présente. Maintenant, les jeunes ont besoin d'un but et d'un objectif. Le travail est devenu plutôt un moyen.
Clairement alimentaire.
Ouais, est devenu plutôt un moyen pour accéder à une vie.
Un standing.
Voilà. Ouais, enfin, à se payer des choses, enfin voilà, plus dans le côté personnel, c'est devenu un moyen plutôt qu'une fin en soi. Mmh. Et donc, bah forcément, dans l'entreprise, ça peut créer, voilà, un petit choc. C'est plus du tout la même mentalité. Donc, il y a un travail d'accompagnement à faire avec les jeunes pour trouver un compromis entre les jeunes et l'entreprise. Donc, sensibilisation des jeunes et sensibilisation des entreprises pour que le compromis se fasse et que on trouve des choses pour que l'emploi perdure.
Ouais. Ok, merci.
J'ai une question aussi. Donc, c'est comment peuvent-ils les jeunes d'ici vous rencontrer ?
Généralement, lorsqu'ils rencontrent leur conseiller pénitentiaire, on leur expose tous les partenaires qui interviennent. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, généralement, il y a une orientation automatique. Alors, pour un premier rendez-vous, après, si le jeune ne veut plus me revoir, voilà, je force personne. Mais il y a une orientation automatique des conseillers pénitentiaires vers la mission locale. Après, il y a une autre façon, il y a le courrier. Voilà, vous faites un courrier en interne adressé à la mission locale. Et moi, je vous reçois. Et on a mis aussi en place, avec toute l'équipe des partenaires de l'insertion, des réunions d'information collective. Alors, pas quand vous arrivez tout de suite, mais généralement un mois après que vous soyez arrivé, on vous regroupe et on vous présente tous les partenaires de l'insertion. Donc, France Travail, Mission Locale, Bureau Information Jeunesse... ma collègue de la VAE, le PPAIP, des choses comme ça. Et donc, on fait une réunion d'information collective et à ce moment-là, on donne des petits bons pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'un ou l'autre. Et puis, il y a juste à cocher, voilà. Et moi, j'interviens une fois par semaine et du coup, je reçois les jeunes qui souhaitent me rencontrer sur ces permanences-là.
Nous remercions Madame Courgeot d'être intervenue.
Merci à vous.
Oui, merci pour tous ces éclaircissements. Alors, du coup, on passe à la suite. Donc, c'est le micro-trottoir. Le principe, c'est simple, c'est que notre intervenante va soit dans la rue, soit parfois directement au studio de Studio Zef pour poser une question à un bénévole ou n'importe qui lui nous posera une question en retour par rapport au sujet. Donc, on écoute la question.
Après avoir eu un casier judiciaire, quel métier on ne peut plus faire ?
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que c'est une question, c'est une question qui est un peu compliquée. Joe, qu'est-ce que t'en penses ?
Écoutez, moi je suis pas tellement calé sur le sujet, à part de ce que j'en sais, c'est les métiers de convoyeur de fonds, les choses qui touchent à la sécurité, toutes ces choses-là. Après, je suis pas tellement calé là-dessus pour vous répondre plus que ça, mais je laisse ma parole à mon camarade David.
Moi non plus, je suis pas trop calé là-dessus.
Gardien de prison,
convoyeur,
politicien.
Non, ça c'est bon.
C'est bon.
Il en faut d'ailleurs.
Non, mais en fait, tout dépend des faits déjà qui sont reprochés. Tout dépend de la longueur de l'incarcération. Du coup, on va demander à notre intervenante qui a peut-être plus la main là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question, qui est une très bonne question d'ailleurs. Merci à la personne qui nous l'a posée.
Alors effectivement, ça va aussi dépendre de la condamnation qui a été portée. Chaque dossier est différent, mais effectivement, il y a des métiers qui ne seront plus possibles. On a parlé de la sécurité. On peut aussi parler du nucléaire. L'armée. On peut aussi. Les employeurs peuvent demander. Certaines administrations, en fait, les hôpitaux, les choses comme ça, peuvent demander aussi à avoir ce qu'on appelle le casier B2. Tous les employeurs n'ont pas le droit d'accès à ça, mais les administrations, oui. Donc ça peut aussi bloquer, mais c'est pas certain. Mais ça va, comme je le disais, dépendre de la peine. C'est-à-dire que, par exemple, dans un hôpital, si on vous fait travailler dans l'endroit où il y a les médicaments stockés, etc., et que vous avez eu une peine pour stup ou des choses comme ça, bah, ça va freiner forcément l'employeur parce que bah, y a un accès aux médicaments, il y a un accès à des médicaments potentiellement voilà, assez forts, des choses comme ça. Donc ça va dépendre. Il y a aussi les métiers liés à la petite enfance, les banques généralement.
C'est un peu la sécurité du pays quand on regarde quoi, tout ce qui va toucher.
Ouais. Oui, sécurité du pays.
La banque, ouais. L'enfance, donc c'est l'avenir du pays en gros, hein, les enfants. Donc ouais, tout ce qui est sécuritaire en majorité.
Oui, effectivement. Et puis après, ça va dépendre... Ça va dépendre de l'employeur aussi, mais sûr et certain, voilà, nucléaire, vous pourrez pas.
La fonction publique, c'est, je pense, très compliqué, de toute façon.
Bah, c'est ce que je vous disais, en fait, comme ils peuvent avoir accès au casier B2, ça peut, voilà, ils peuvent décider oui ou non, voilà, après... C'est à vous aussi, selon votre peine, de demander au juge s'il y a possibilité d'effacer sur le casier, etc. Voilà.
Bah, y a ça, mais il y a aussi le nombre d'années, je pense, qu'on passe en prison. Je sais pas, Magid, qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, toi, est-ce que tu penses... Enfin, c'est sûr que quelqu'un qui reste 6 mois en prison, ça sera peut-être plus facile pour lui de se réinsérer et de retrouver un travail plus rapidement que quelqu'un qui est resté 10 ans.
Alors là, franchement, moi, j'en sais rien. J'ai pas l'intention de... Personnellement, je vais pas rester en France, donc j'ai déjà mon projet.
Oui.
Je sais, j'ai pratiquement rarement travaillé.
Feignant.
Alors...
Non, mais je travaille à mon compte.
Si je peux intervenir sur le côté employeur, effectivement, en fait, alors, c'est pas question de si c'est une question du nombre d'années, mais c'est sûr, si vous êtes motivé, en fait l'idée c'est de pouvoir expliquer cette période de 10 ans, voilà, donc c'est comment on va l'expliquer à l'employeur, comment on va se valoriser d'une autre façon. C'est pour ça que moi j'incite les jeunes que je rencontre à faire des activités en détention, très clairement, à faire des formations, à travailler, développer des compétences pour pouvoir voilà, dire à un employeur bah voilà, j'ai pas rien fait en fait. Voilà, dans un certain domaine, je me suis peut-être, voilà, dans certains centres de détention, on peut carrément avoir des formations qualifiantes et sortir avec un diplôme à la fin. Pas hésiter non plus à se servir de cette détention pour. Ou alors se renseigner sur la création d'entreprise. C'est des choses qui sont possibles. C'est notre rôle aussi de donner des informations là-dessus, sur la création d'entreprise, sur élaborer le projet, etc. Donc c'est important d'utiliser ce temps de détention pour pouvoir le valoriser après face à un employeur qui va forcément vous poser la question. Alors, l'idée, c'est de travailler le CV aussi pour pas que
oui, que ça se remarque ça se trop. Quoi.
Voilà. Après, un trou de 10 ans, effectivement. Ça...
Oui. Un trou de 10 ans, c'est plus difficile à cacher qu'un ou deux ans.
C'est ça.
Mais après, voilà, c'est bien de se valoriser en détention. Mais comme vous expliquiez tout à l'heure, le problème, c'est la confiance en soi et l'incarcération. Ça peut poser soucis sur ça. Peu importe l'âge, hein, concrètement, parce que là on parle beaucoup des jeunes, parce que vous intervenez sur les moins de 26 ans, mais une personne qui est incarcérée à 50 ans et qui prend, plus de 5 ans de détention, c'est très très compliqué pour lui de retrouver un travail, en tout cas derrière.
C'est vrai, et c'est pour ça que voilà, tous les partenaires de l'insertion aussi travaillent sur la confiance en soi, les CPIP, etc. Enfin. Voilà, vous accompagne là-dessus pour travailler cette confiance et pour pouvoir valoriser. Après, bien sûr, il y a des catégorie, voilà, à 55 ans en France, même sans être incarcéré, voilà, si vous perdez votre emploi, forcément, c'est plus compliqué de retrouver un emploi pour les personnes qui sont plus près de la retraite que du début. Ça, c'est certain. Mais voilà, c'est notre rôle aussi de vous parler de la réalité du marché du travail, de laisser libre cours à vos projets, mais aussi de vous dire, OK, là, ça va être difficile. Peut-être que là, va falloir faire un job alimentaire pour sécuriser et ensuite monter parallèlement votre projet, ou etc. Mais on est là aussi pour vous dire, bah, OK, nous, on vous suit dans votre projet. Par contre, voilà, il y a cette réalité du marché du travail qui n'est pas forcément la même qu'on a, nous, comme vision, quoi.
Merci encore à la personne qui nous a posé cette question. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, sur lequel on pourrait débattre, je pense, pendant longtemps, parce que voilà, c'est très, très compliqué. De la détention, de retrouver un travail grâce aux partenaires, merci d'ailleurs à la mission locale, entre autres, hein, parce qu'il y a le BIJ, tous les intervenants, plus les SPIP, qui peuvent permettre aux détenus, en tout cas pour essayer de s'en sortir un minimum.
Juste une dernière question. Avant leur libération, avant la date de libération d'un jeune qui a été incarcéré, est-ce qu'il commence justement un accompagnement de sortie, pour sa sortie?
Bien sûr.
En vue d'un éventuel entretien d'embauche, ou est-ce qu'on va l'accompagner, lui donner les clés pour dire, bon, tu sors telle date, on va te suivre, on va être avec toi pour préparer ta sortie et,
C'est là qu'est tout notre rôle avec les partenaires de l'insertion.
Au bout de combien de temps, en fait, c'est ça que je voulais savoir, à partir de quoi, de un mois avant la sortie, depuis la lente dès le départ.
Alors, en fait, ce qui est délicat avec la justice, c'est que on est toujours dans la supposition, on est toujours tributaire du juge qui va dire c'est OK pour cette date ou c'est pas OK pour cette date. Moi, je rencontre vraiment tous les jeunes détenus, donc c'est-à-dire qu'ils soient prévenus ou condamnés, qu'ils soient aménageables ou non. Donc la durée moyenne de quand je les rencontre, ça peut être très variable.
C'est selon aussi la demande peut-être du
condamné. Ça va dépendre aussi de la demande, de aussi du projet du jeune. C'est-à-dire que si le jeune a un projet en tête qui est bien fixe, effectivement, on va essayer de voir s'il y a des dates de formation qui collent avec ça. Mm-hmm. Par contre, si le jeune est complètement perdu sur son orientation, là, il va y avoir un vrai travail. Et là, à ce moment-là, l'accompagnement va durer un peu plus longtemps parce qu'il va y avoir un vrai travail d'élaboration de projet professionnel. On va pouvoir solliciter le bureau information jeunesse pour le renseigner sur tout type de métier. On va pouvoir solliciter nos partenaires du PPIP qui vont revenir. Donc, c'est un programme personnalisé d'aide à l'insertion professionnelle, où là, on va vraiment rentrer en détail dans l'élaboration du projet. On va effectivement recréer un CV, mais on va aussi s'assurer de la bonne sortie. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, si le jeune trouve un travail, une formation, etc., mais qu'il n'y a pas de logement, ça passera pas devant le juge. On va faire tout ce travail aussi, toujours en collaboration avec les CPIP, parce que on peut pas c'est eux qui coordonnent toute l'activité. Mais bien sûr, nous, notre rôle, c'est de faire le lien entre le dedans et le dehors, et de préparer la sortie. Parce que on considère qu'une sortie bien préparée, c'est une réinsertion réussie, ou bien démarrée. C'est là qu'est tout notre rôle, en fait.
Chaque cas est différent.
C'est-à-dire que donc ça plutôt être pour les condamnés aménageables, on va préparer la sortie. Pour les prévenus, on va les aider justement, s'ils sont perdus, à élaborer un projet, etc. Vraiment utiliser le temps de détention pour se dire, bah, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire quand je sortirai, est-ce que je me vois rester vivre sur cette ville-là, ou est-ce que je veux vivre dans une autre ville, et est-ce qu'il y a les mêmes opportunités, les mêmes débouchés d'emploi dans une autre ville, voilà, par exemple si vous voulez être marin pêcheur à Blois, ça va être compliqué, voilà, donc c'est tout ce travail là Ouais, c'est tout ce travail-là qu'on va faire. Et puis, y a un travail aussi d'écoute qui n'est pas négligeable. Souvent, on est une écoute. Nous, on n'a pas de lien avec la justice. On a moins ce côté probation. Voilà, on est plus dans
l'accompagnement. Alors,
on est plus non, mais, ouais. On nous voit comme ça, du moins. On nous voit comme ça, donc y a aussi ce gros travail-là, mais qui crée le lien de confiance après.
Jo, est-ce que toi, du coup, t'as la mission locale, tu connais, et est-ce que tu en as déjà bénéficié ? Explique-nous un petit peu.
Quand j'étais jeune, ouais, justement, je me suis rapproché de la mission locale pour passer mes CACES, permis cariste. Je devais avoir 23 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. C'était pas dans la région, mais bon, c'est pareil partout. Et effectivement, ouais, je m'étais rapproché de la mission locale, et grâce à eux, j'avais pu passer mes CACES 1, 3, 5 gratuitement. Une formation qui avait duré une semaine. Donc c'était tout pris en charge, et grâce à ça, après, j'ai pu, partout où j'allais, c'était un bagage en plus qui m'a permis de trouver du job un peu partout, ouais, effectivement. Et puis sinon, pour diverses recherches d'emploi, au lieu d'aller à Pôle emploi, quand c'était un peu saturé de partout, j'allais chez eux, et ça m'a aussi permis de trouver des boulots, on va dire, pour subsister, quoi. Mais ils m'ont beaucoup aidé, ouais, quand j'étais jeune. Ouais, ouais.
Est-ce qu'ils t'ont aidé à trouver autre chose, du coup, tout ce qui est logement, là, du coup, tu as expliqué pour les CACES, mais pour le permis, tu avais déjà tout ça ?
Ouais, j'ai eu mon permis à 18 ans, et donc non, à ce niveau-là, tout ce qui était emploi, c'était vraiment juste pour l'emploi et pour m'orienter vers des formations, ce genre de choses-là, tout ce qui touchait, c'était vraiment consacré qu'à l'emploi, j'allais voir vraiment que pour ça, après, pour le reste, je me suis débrouillé. Voilà.
Du coup, les gars, David, Majid et Joe, est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez, quand vous étiez plus jeune, un adulte, un accompagnateur, quelqu'un vraiment en qui vous aviez totalement confiance, qui vous a une phrase qui vous aurait dite et qui vous a marqué et qui vous a permis justement dans votre vie, vous êtes comme un leitmotiv, vous êtes répété cette phrase-là.
Moi, pour ma part, ouais, mon père m'a toujours dit, on n'a rien sans rien dans la vie. Et j'étais bien passé pour le voir, parce que quand j'étais gamin, il a perdu son job. Il était vendeur de voitures chez Peugeot, il s'est retrouvé licencié. Donc on a perdu la maison, les voitures, on était à la rue, quoi. Donc c'est mes grands-parents qui nous ont hébergés. Et mon père s'est refait tout seul, il s'est levé le matin, il a démarché lui-même, il a tiré des sonnettes, comme on dit. Il a enfoncé des portes, et puis après il a réussi à rebondir, quoi. Mais ça a été un exemple, et puis je me dis que voilà, quand on veut, on peut. Et voilà, ça c'est encore une phrase toute bête, toute bateau, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Quand on a envie et qu'on veut quelque chose et qu'on se donne la peine, on y arrive.
On n'a rien sans rien, comme mon père m'a dit, ça me fera pareil, quoi.
Moi j'avais un éducateur qui m'avait dit, si tu te lèves pas, t'auras jamais rien.
Si tu te lèves pas,
t'auras jamais rien. Ouais, mais c'est vrai que c'est logique. Le monde appartient.
C'est ce que j'allais dire, c'est du même acabit que la France appartient, enfin le monde, on va dire, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi.
Voilà. Nous remercions tout le monde, nous arrivons à la fin de l'émission.
Merci beaucoup à tout le monde, à tous les intervenants, et passez une bonne soirée. Et on se quitte avec Kenny Arcana et Jeunesse de France.
Ce monde nous rend contestataire. Je rêve de pays de bonheur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et d'ailleurs je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs. Monde de fous, je veux pas attendre de voir ce que l'enfer réserve. Je suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront, mais on a besoin d'idéaux pour bousculer les choses. Alors laisse-moi crier même à blanc le mal d'une époque. Même tu retrouveras dans les yeux de mes sisters et de mes potes. Parce qu'on est conscient que ça tourne pas rond et qu'il n'y a pas de solution. Tu m'aimes pas encore, alors ça se bat sur des résolutions. On change le monde qu'à son échelle, es-tu prêt pour la révolution? Car faut voir à quelle prise ose parler d'évolution. D'évolution. Le sud qui crève pour que le nord bouffe, paraît que c'est mort. Bref, de voir toujours les mêmes qui morphent tous confiants face au progrès technique. Et quand tout serait informatisé, on se plaindra de cette bien finiquée. Parce qu'ils nous la mettent, et ça
qu'on l'admette ou non. Ce qu'on ne veut pas admettre, il génère que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Ce qui nous la mettre, et ça qu'on l'admette ou non. Parce qu'on ne veut pas admettre, il génère que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Je peux pas me plaindre, c'est pour ça aussi que je peux pas me taire. Quand je pense au mode de vie de mon peuple, à l'autre bout de la terre, mes amis qui m'ont dit, toi t'as de la chance d'être né en France, tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances, alors lâche pas. Parce que tu peux encore rêver, je le jure au moins pour eux que je foncerai droit jusqu'à l'arrivée, que j'oublierai pas que la parole est une arme, que c'est rare d'être entendu. Donc je viens pas pour glorifier les drames de la rue, mais sans espoir, car faut y croire, car tout est possible quand on le veut. Ceux qui veulent tous nous voir au placard, parce qu'ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra l'Arabia del Pueblo.
Je vais de l'Occident, on est les seuls à pouvoir bousculer les choses. Je vais de l'Occident, on n'a plus le droit de fermer les yeux.
Révolution,
on
est, mais ça, on l'admet ou non, parce qu'on veut pas admettre,
c'est
nerveux, misère,
il y a,